Jean Vilain vous présente ses nouvelles vilaines.
Vilaines nouvelles ?
Nouvelles vilaines.
Vilaines nouvelles.
Nouvelles vilaines. Nouvelles vilaines. Vilaines nouvelles. Nouvelles vilaines. Histoire. Eh bien, bonjour. Comme vous le voyez, apparemment, la fin du monde n'a pas eu lieu. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël, un joyeux réveillon du premier de l'an, et que tous les vœux que vous avez faits à cette occasion vont se réaliser. Donc, on va retrouver nos Indiens, et je ne sais pas si vous vous souvenez, parce qu'il s'est passé 15 jours entre les deux émissions, mais quand je vous ai quitté la dernière fois, les États-Unis d'Amérique se préparaient à attaquer un camp indien à Sand Creek. Et c'est donc par cette attaque, ça n'a pas été une bataille, ça a été un massacre. Mais bon, vous allez voir. Partons pour Sand Creek. L'attaque fut déclenchée au lever du soleil, par un matin glacé. Lorsque Black Kettle sortit en courant de son tipi et vit que les troupes américaines approchaient, il hissa le drapeau américain sur sa tente et il y ajouta même un drapeau blanc. Pourtant, les soldats se mirent à affoler les chevaux des Indiens et commencèrent à tirer. Black Kettle demanda au campement qui s'éveillait de rester calme. « Il est possible, songeait-il, que quelques guerriers aient entrepris une razzia récemment et que cette démonstration de force américaine soit destinée à les effrayer et à faire quelques prisonniers. » Mais il comprit très vite que l'attaque était sérieuse. Au-delà de la crique, sur des positions élevées, les soldats plaçaient des canons et commençaient à tirer sur les tipis. Le chef White Antelope courut, main en l'air, vers l'assaillant en criant en anglais « Arrêtez ! Arrêtez !» Voyant l'inutilité de son geste, il renonça et croisa les bras. On l'abattit à coups de feu. Les femmes et les enfants criaient et pleuraient. Ils s'enfuirent du camp pour s'éparpiller dans les collines sablonneuses. La résistance s'organisa et les guerriers couvrirent une retraite vers l'aval du cours d'eau où les hautes berges offraient une certaine protection. Des trous individuels purent être rapidement creusés dans le sable. Au début de l'engagement, Black Kettle s'attarda auprès de son drapeau, puis, en compagnie de sa femme, il rallia ceux qui remontaient la berge. Durant cette cruelle journée, l'Indienne servit de cible 9 fois de suite. Et pourtant, elle survécut. Contrairement au rapport du commandant américain Black Kettle, ne fut pas mortellement atteint. Les combats durèrent jusque dans l'après-midi, mais il s'agissait davantage d'une chasse à l'Indien que d'une opération militaire. Les officiers blancs n'arrivaient pas à maintenir la discipline parmi leurs soldats, ou ne le voulaient pas. Robert Bent, un métis de sang Cheyenne qui avait été obligé de guider l'expédition, décrivit par la suite les événements dont il fut témoin. Voici quelques-uns de ses commentaires. Je vis 5 squaws derrière un remblai. Lorsque les troupes les rejoignirent, elles sortirent de leur abri en courant et se montrèrent à découvert pour que les soldats sachent bien qu'il s'agissait de femmes. elles suppliaient qu'on les épargnât. Néanmoins, les soldats les tuèrent les unes après les autres. 30 ou 40 squaws s'étaient regroupés dans un trou. Elles dépêchèrent une fillette d'environ 6 ans qui portait un drapeau blanc au bout d'un bâton. Un coup de feu la tua. J'ai vu une indienne qu'on avait éventrée et dont l'enfant mort-né gissait à ses côtés. J'ai vu le corps de White Antelope qui n'avait plus ses parties sexuelles. Et j'ai entendu un soldat annoncer à son intention de faire une blague à tabac avec ce trophée. Par ailleurs, j'ai vu le corps d'une indienne dont on avait découpé le sexe. Un observateur avait dénombré les victimes. Il arrivait au total de 123 corps, dont 98 étaient ceux de femmes et d'enfants. Avec les rescapés de sa bande à demi dévêtus, Black Kettle s'enfuit en direction du nord et rejoignit au bord de la rivière Smoky Hill un campement d'Indiens plus belliqueux. Là, il trouva des vivres, des vêtements et des abris contre le froid impitoyable de l'hiver des plaines. Bien que le massacre l'ait rendu furieux, il ne conseillait toujours pas la guerre à outrance. Il persistait à croire que la survie des Cheyennes passait par un accord avec les Blancs. Toutefois, son influence au Conseil déclinait, comme celle des autres chefs prenant la paix. Devant le massacre de Sand Creek, la réaction des autres meneurs de tribus des plaines fut rapide et violente. Vers la fin du mois de décembre, 2000 guerriers Arapahos du Nord, Cheyennes et Sioux, se réunirent dans des villages essaimés le long de la République. Quels sont nos raisons d'être ? Confia un jour un chef à un trappeur sympathisant. L'homme blanc a pris notre pays et a anéanti notre gibier. Il ne s'est pas montré satisfait pour autant. Et il a aussi tué nos femmes et nos enfants. Désormais, la paix n'est plus possible. Nous lèverons l'âge de guerre jusqu'à ce que mort s'en suive. De fait, une nouvelle série d'attaques provoqua la mort de Blanc. En janvier, une troupe de guerriers attira les hommes d'un détachement de cavalerie hors de Fort Ranking et massacrera quelques 45 cavaliers. Sans s'accorder le moindre répit, les Indiens firent des razzias contre toutes les exploitations occupées par les Blancs dans un rayon de 130 km autour de Fort Ranking. Le bilan des pertes s'accrut encore de 8 personnes. Les Indiens volèrent 1500 têtes de bétail et terminèrent par la mise à sac orgiaque de Julesburg, où l'on vit une foule de guerriers danser en chantant à la lueur d'un feu de joie allumé avec des poteaux télégraphiques abattus. Les gens de la frontière tremblaient devant de telles vengeances. Mais ailleurs, une réaction toute différente se dessinait parmi les Blancs à propos de Sand Creek. Les témoignages recueillis lors de l'enquête ordonnée par le Congrès à propos de la « grande bataille » déclenchèrent une vague d'indignation qui déferla à travers tout le pays. Ils incitèrent de plus en plus de gens à étudier avec minutie ces luttes qui avaient ensanglanté l'Ouest à cette époque. Juste après le massacre, Ulysse Grant, et Dieu sait si son avis comptait, reconnut devant John Evans, gouverneur du Colorado, que, selon une certaine source, la tuerie de Sand Creek n'était, somme toute, qu'un assassinat perpétré par les militaires sur des Indiens qui se croyaient sous leur protection. L'avocat général de l'armée, Joseph Holt, qualifia cet acte de meurtre de sang-froid, exécuté par des pleutres qui couvaient d'un opprobre indéfectible ceux qui l'avaient commis et empourpraient l'indignation et de honte aussi le visage de tout Américain. Un certain nombre de rédacteurs de l'Ouest continuaient à épouser la dure attitude traditionnellement adoptée par les habitants de la frontière. En date du 16 janvier 1865, le Nebraska City Press recommandait l'extermination de la totalité des peaux-rouges. Avec un peu plus de justesse, le sénateur Lott McMorrill décelait l'éveil de la conscience des États-Unis et de son gouvernement lorsque, s'adressant au Sénat, il déclara « Dans l'histoire de notre peuple, nous en sommes arrivés à un tel stade démographique que, faute de terre, on ne peut plus déplacer les Indiens. La question qui se pose est précise. Faut-il les exterminer ou leur fixer un emplacement définitif ?» En fin de compte, Blancs et Indiens se trouvaient les uns et les autres devant un choix fondamental. Vivre en paix ou faire la guerre. Jusqu'alors, le gouvernement américain avait pu remettre à plus tard la solution du problème indien grâce à un expédient simple et assez cruel, consistant à déplacer ces gens vers l'ouest. À présent que s'achevait la guerre de sécession et que la colonisation progressait rapidement, il fallait désormais chercher une autre solution. Face aux barbares conséquentes du massacre de Sunk Creek et de ses sanglants lendemains, les autorités américaines hésitaient à entamer une guerre contre les Indiens des plaines. À l'Est, en particulier, les chefs religieux et nombre de hauts dirigeants adoptaient des attitudes fondamentalement humanitaires. Dans certains cas, cependant, il ne s'agissait que d'une forme larvée de pragmatisme. James Harlan, le secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur, remarqua en 1866 que le vieux concept de l'extermination était manifestement impraticable et en contradiction avec toutes les règles énoncées au nom de l'humanisme et des devoirs du chrétien. Derrière ces paroles se profilait une dure réalité, à savoir qu'entretenir un régiment pour combattre les Indiens coûtait annuellement 2 millions de dollars. Compte tenu de ces dépenses, il semblait plus judicieux de maintenir les Indiens en vie en les cantonnant dans des réserves plutôt que de les tuer au combat. Les finances de l'État ayant été mises à rude épreuve par la guerre de sécession, forcément, telle était également l'opinion du Congrès. Ceci mis à part, l'esprit de croisade et les idéaux humanitaires qui avaient conduit les abolitionnistes régnaient encore dans le pays. Un réformateur militait depuis longtemps pour que fût adoptée une mesure plus éclairée du problème indien. Il s'agissait de Henry Whipple, l'évêque épiscopal qui avait pris le parti des Sioux lors de leur rébellion. Il demandait au gouvernement de tenir ses engagements et de nommer au Bureau des Affaires indiennes des personnes intègres et bienveillantes, sans doute pour répondre aux pressantes objurgations de Whipple. L'église épiscopale s'associa aux Quakers, qui, eux, jouissaient de l'amitié traditionnelle des Indiens depuis plus de 200 ans. Et par la suite, ils s'allièrent aussi à d'autres courants pour militer en faveur d'un traitement plus équitable des Indiens. La solution fondamentale que prônaient les gens d'église et les autres réformateurs consistait à assimiler les Indiens, à les loger, à les nourrir grâce à des distributions annuelles de vivres, de marchandises et d'argent. Et il s'agissait aussi de les christianiser, de les familiariser avec l'agriculture moderne et de leur apprendre un métier. Grâce à de telles méthodes, disait-il, le problème se résorbera de lui-même puisqu'il n'existera plus d'Indiens au sens tribal du terme et que les libres bandes vagabondes d'antan seront ainsi neutralisées. Ces réformateurs, d'après l'historien Robert Murdoch, envisageaient pour les Indiens un nouveau mode de vie fondé sur les valeurs idéalisées en l'honneur au Xe siècle dans la classe moyenne des gens de l'Est. Politiquement démocrates, ces nouveaux Indiens seraient respectueux de la loi et des dogmes chrétiens. Ils deviendraient actifs et indépendants grâce à leur rôle de propriétaires terriens et auraient tous les droits et les devoirs des citoyens américains. Les représentants des églises rencontrèrent de surprenants alliés. Après une expédition dans le territoire du Dakota, le général Alfred Sully rendit compte à ses supérieurs que, en vérité, la façon la plus facile d'exterminer les Indiens était encore de les civiliser. Le général militait en faveur d'une étroite collaboration entre missionnaires et gouvernement en concertant leurs efforts au sein même des tribus. Il veillerait à ce que fût instauré un climat de justice, un commerce équitable et une ambiance d'honnêteté qui balayerait les filouteries des agents indiens. Ah, certes, ces idéaux valaient la peine d'être examinés de près. Mais il s'agissait avant tout de savoir ce qu'il était possible de faire. Le général William Sherman, qui joua un grand rôle à la fin de la guerre de Sécession, était pragmatique et tolérait les Indiens dans la mesure où leur comportement s'accordait avec les dispositions légales. Cependant, certains de ses écrits et quelques-unes de ses déclarations officielles laissait clairement entendre qu'il était favorable à l'extermination des tribus guerrières. Entre 1860 et 1870, ce grand débat se poursuivit et la déclaration que fit Ulysse Grant après sa nomination à la présidence en marqua l'apogée. Essentiellement, il prônait le programme énoncé par le général Sully tout en le complétant. Il s'agissait d'utiliser les hommes nommés par les diverses églises et d'en faire des agents indiens. Longuement débattue et discutée, cette mesure fut appliquée sur une très large échelle et finalement abandonnée. Le problème était trop profond pour les hommes d'église et surtout pour qu'il le réserve, même avec l'appui réformateur du gouvernement. Quoi qu'il en soit, cette recherche de l'état d'esprit des Indiens eut pour conséquence la création par le Congrès d'une commission de la paix dont l'objectif était de traiter avec les Indiens hostiles. La commission avait un but déclaré: éliminer les causes de guerre, faire régner la paix autour des points de colonisation et des voies de chemin de fer en construction, et établir un système pour civiliser les tribus indiennes. En octobre 1867, la commission dirigea sur Medicine Lodge, dans le sud du Kansas, un énorme convoi de redevances annuelles composé de vivres, de vêtements ainsi que d'autres fournitures. Elle espérait négocier de nouveaux traités avec les Cheyennes, les Arapahos, les Comanches et les Kiowas. Les tribus vivaient sur de vastes réserves dont elles ne sortiraient que pour chasser le bison. En échange, elles auraient droit à des rations, des vêtements, des installations fixes, ainsi qu'à un programme de formation. Si les Indiens renonçaient à leurs attaques, la surveillance des Blancs serait moindre. Le traité projeté ne manquait certes pas de complexité, mais la commission disposait de centaines de personnes et de tonnes de nourriture. Pour rendre compte des débats au peuple américain, 9 journalistes furent du convoi. Dans ce vaste rassemblement de médecine loge, un homme fut appelé à jouer un rôle remarquable. Il s'agissait du chef Black Kettle, qui s'obstinait toujours à rechercher la paix 3 ans après le massacre de Sand Creek. Au cours de ces 3 années, Black Kettle avait replié le contrôle de sa bande, alors que d'autres Cheyennes s'étaient lancés dans des opérations intermittentes de guérilla. Résolu à négocier la paix, il était venu, accompagné de tous les siens, à Medicine Lodge. Il fit monter le campement à l'endroit désigné, alors que les Cheyennes, préférant se tenir hors de portée des armes, s'étaient installés sur la Cimarron, à une petite journée de cheval. Si les événements tournaient mal, ils pourraient ainsi passer à l'attaque. Lorsque les Indiens de la Cimarron se rendirent aux rencontres de Medicine Lodge, ils cherchaient en fait surtout à connaître l'état d'esprit des Blancs. Les séances de la Commission de la paix confirmèrent que diverses escarmouches et razzias avaient eu lieu depuis l'affaire de Sand Creek. Après les séances, au lieu de rentrer à leur campement de la Cimarron, les chefs se rendirent à celui de Black Kettle et y tinrent une session au cours de laquelle chaque Indien apporta son témoignage. La tribu connaissait des heures graves et cherchait à se définir. Les autres chefs montrèrent leur hostilité à l'encontre de Black Kettle, surtout quand il s'éleva contre l'esprit belliqueux de la tribu. Les Cheyennes firent attendre les membres de la commission de la paix pendant près de 2 semaines, sous prétexte qu'ils participaient à une cérémonie médecine qui ne pouvait être interrompue. Ils arrivèrent ensuite sur les lieux de la commission en simulant une charge, criant et tirant des coups de feu. Mais ils signèrent le traité. Black Kettle et les siens l'avaient emporté. La suite démontra que l'accord signé à Medicine Lodge ne servit à rien pour le maintien de la paix. Bien au contraire. Le Congrès, celui-là même qui avait créé la commission, se refusa à voter les mesures appropriées pour faire face aux engagements des membres de sa propre délégation. D'un autre côté, certains guerriers des plaines n'avaient nulle intention de respecter la paix d'une façon permanente, ni de tenir compte de leur signature et des croix portées en bas des documents officiels. Avant la fin des années 1860, tant chez les Indiens que chez les Blancs, les conflits culturels avaient pris trop d'ampleur pour qu'on pût les réconcilier. Une des toutes premières victimes de cet état de choses fut Black Kettle, qui avait tant lutté pour la paix. Son histoire, ainsi que celle de 3 autres chefs des Indiens des Plaines, Quanah, le chef des Comanches, Sitting Bear, chef des Kiowa, et Red Cloud, chef avisé des Sioux, illustre les conséquences sanglantes et souvent tragiques qu'eurent à connaître les dirigeants de ces tribus, appelés à opérer dans une politique mouvante qui se voulait tantôt accommodante et tantôt belliqueuse. Ah, 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 ah. Le 27 novembre 1868, soit un an après à la conférence de Medicine Lodge, la bande de Black Kettle campait sur le cours supérieur de la Ouachita, à l'ouest de l'Oklahoma actuel. La neige couvrait la plaine et roulait les peupliers de la berge. La veille, un groupe de guerriers qui revenait d'une razzia était arrivé au campement en laissant dans la neige des traces parfaitement identifiables. Alors que les premières lueurs d'une aube glacée permettaient aux formes des tipis du campement de se détacher parmi les arbres, on entendit un coup de feu, suivi des notes d'un clairon. Mené par celui que les Indiens appelaient « Long Cheveux », le général Armstrong Custer, les cavaliers du 7e régiment chargeaient. Éveillé en sursaut, Black Kettle songea sans doute à Sand Creek. L'histoire ne se répète pas, et pourtant. Tout en s'armant et tandis qu'éclataient les cris, il prit sans doute conscience des événements et dut songer « Cette fois, je ne veux pas survivre à ce qui va se passer. » Et son vœu fut exaucé. Il mourut auprès de sa femme, non loin de son tipi, et les éclaireurs osages de Custer le scalpèrent. L'engagement coûta également la vie à une quarantaine de femmes et d'enfants indiens. Cependant, cette fois, on ne dépêcha aucun officiel de Washington sur les lieux pour chercher à savoir pourquoi on avait à nouveau attaqué un campement d'Indiens et pourquoi on avait encore tué des femmes et des enfants. En fait, Custer, qui commandait ce détachement de cavalerie et s'était déjà illustré lors des opérations menées à l'Est, avait pris directement ses ordres auprès de ses supérieurs, le général Sheridan et le général Sherman. Apparemment, les Blancs avaient décidé de ne plus organiser aucun conseil. À la place, la politique consisterait à écraser n'importe quelle tribu à la moindre résistance et à obliger les survivants à gagner les réserves. Un homme d'action particulièrement énergique avait su résister aux Blancs. Il s'agissait de Quanah, un chef Comanche. Sa mère, Cynthia Ann Parker, une Blanche maintenue en captivité, lui avait donné le jour en 1845 après être devenue l'épouse d'un chef. Ce fils fut élevé comme tout Comanche. Mais à l'âge de 15 ans, alors qu'il n'était encore qu'un adolescent sensible, il subit une perte cruelle. Un détachement de la cavalerie américaine, appuyé par des Rangers du Texas, des éclaireurs Tonkawa et des civils, attaqua le camp des Comanches installé sur la piste. Au cours de cet engagement, Cynthia Hall Parker fut reprise par les Blancs. Profondément marqué par ce deuil, Quanah conserva son nom durant tout le reste de sa vie. Ses jeunes compagnons prirent d'autres appellations, telles que Big Horse, grand cheval, Fighting Wolf, loup combattant, et White Bear, ours sauvage, alors que lui gardait le nom choisi par sa mère, Quanah, ce qui signifie « parfumé ». Très vite, ses compagnons apprirent à ne pas le taquiner à ce sujet, car il devint le symbole même du farouche guerrier d'autrefois. Alors qu'il avait tout juste 20 ans, il commença à diriger des expéditions. À 26 ans, il mena avec succès une charge nocturne à travers le camp du détachement de cavalerie commandé par le colonel Ronald Mackenzie, qui avait reçu la mission spéciale de réduire Cana et sa bande. Les guerriers prirent de nombreux chevaux. Après les avoir effrayés à coups de fusil, en criant et en faisant claquer des peaux de bison sur le sol, Quanah effectua de multiples razzias visant les installations des colons du Texas. Il s'appropria du bétail, des chevaux et tout le butin qui lui tombait sous la main. Cependant, la puissance des Comanches diminuait rapidement. La maladie, la guerre et un taux de natalité anormalement bas décimaient la population. Inéluctablement, ce peuple se trouvait devant l'alternative habituelle. Ou s'entendre avec les Blancs, ou leur livrer une guerre permanente. La plupart des bandes acceptèrent de vivre dans une réserve. Mais les Comanches Quahadis, qui se refusaient à signer le moindre traité avec les Blancs et ne s'étaient même pas rendus compte au pourparlers de Medicine Lodge, restèrent libres durant un certain temps. Quanah était un de leurs chefs de guerre les plus efficaces. Confinés dans la réserve, les Indiens des autres bandes entendaient sans cesse prononcer son nom et se rappelaient les jours où ils régnaient eux-mêmes dans les plaines du Sud en seigneur et maître. En fin de compte, même les farouches Quahadis comprirent que leur cause était désespérée. L'armée américaine employait des techniques très brutales pour pacifier les récalcitrants. Il lui arrivait, par exemple, de détruire leurs réserves alimentaires pour l'hiver, de capturer ou de tuer leurs chevaux. Par un matin clair, frais de la fin de septembre 1874, ce même colonel Mackenzie, auquel Quanah avait fait subir une défaite 3 ans plus tôt, attaqua le campement où se trouvaient rassemblés des Comanches, des Kiowas et des Cheyennes, et qui étaient installés dans la partie centrale du canyon Polo Duro, près de la source de la Red River. Les Indiens croyaient que ce site leur offrirait un bon refuge. Bien qu'ayant aperçu des soldats dans les environs, l'assaut les surprit. Ils battirent en retraite. Avant qu'il ne leur soit possible d'organiser une contre-attaque, leurs tentes furent brûlées par les cavaliers de Mackenzie et leurs réserves alimentaires détruites. Plus de 1400 chevaux et mules qui appartenaient aux Indiens furent récupérés par les Américains. Connaissant les difficultés que présentait l'entretien d'une telle cavalerie, le colonel Mackenzie la fit ramener au canyon Tule. Chevaux et mules furent abattus sur place. Sans doute, les Comanches, pour qui ces animaux étaient des dieux chiens, ressentirent-ils un grand choc en espionnant ce massacre sanguinaire ou en découvrant par la suite les carcasses de ces bêtes. Bien que les pertes indiennes aient été légères lors de l'engagement, cette disparition subite de leurs chevaux et de leurs réserves alimentaires venant s'ajouter au massacre constant des bisons par les chasseurs blancs incita Quanah à penser que même les Quahadis, si sauvages, n'avaient d'autre solution que de se rendre. Ainsi, en 1875, Quanah entra à cheval dans une réserve, suivi de ce qui restait de la dernière bande guerrière, vestige d'une puissante nation indienne d'autrefois. Les Kiowas s'installèrent à la même époque dans d'autres réserves, mais ils ne trouvèrent jamais un chef aussi dynamique et sur qui ils pouvaient s'appuyer pour garder une certaine fierté après leur reddition. Leurs dirigeants les plus influents et les plus écoutés étaient morts ou avaient été tués durant les dernières années de cette lutte contre les Blancs. En fait, le plus fameux de leurs chefs, Sitting Bear, se suicida parce que incapable de supporter l'idée même de la reddition. En 1871, alors âgé de 70 ans, il quitta la réserve des Kiowas, située dans le territoire sud-est de l'Oklahoma, et rejoignit les membres effectuant une razzia contre des points de colonisation du Texas. Les agresseurs attaquèrent 10 chariots de grains, tuèrent le chef du convoi et 6 de ses équipiers, puis capturèrent 41 mules. Sitting Bear, qui dirigeait les Kiowa Kaisenkos, la société dite des 10 plus braves, avait été un des meneurs de l'expédition. Après la razzia, les Indiens, assez narquois, regagnèrent Fort Sill pour y recevoir leurs rations. Mais l'un des chefs commença à se vanter du récent massacre, et de ce fait, les soldats arrêtèrent Sitting Bear et 2 de ses compagnons. Ces 3 hommes devaient être envoyés au Texas pour comparaître en justice pour meurtre. Après leur avoir passé des fers aux poignets et aux chevilles, les militaires enfermèrent les 3 hommes dans un souterrain creusé sous leur baraquement. Sitting Bear se procura un couteau de chasse qui lui fut sans doute remis par un visiteur indien et il le cacha sous sa couverture. Un matin, alors qu'un détachement de cavalerie se préparait à escorter les prisonniers en direction du sud, 2 chariots s'arrêtèrent devant le souterrain. L'un d'eux fut réservé à Sitting Bear, car son comportement était assez curieux. Il se palmodiait d'une voix lugubre et sur un ton suraigu. Raj Jones, l'interprète du poste, dit en matière d'avertissement « Vous feriez bien de surveiller ce vieil Indien. Il vous réserve des ennuis. » Armés de carabines, 2 soldats prirent place à ses côtés dans le chariot. Le convoi du 4e régiment de cavalerie se mit en route. Avec ses longs cheveux et sa moustache filasse, Sitting Bear devait ressembler à un vieil homme pleurnichard. Que se rappelait-il de sa longue existence alors que le chariot cahotait en direction du sud sur la route du Texas? Pensait-il au jour, depuis si longtemps révolu, où il arpentait les sables de la rivière devant une rangée d'anciens ennemis tout en leur distribuant des baguettes symbolisant les 250 chevaux qu'il allait donner? Il se souvenait très certainement qu'il faisait partie de la société des 10 plus braves, car dans son chant revenaient les phrases suivantes. Ô soleil, tu es éternel, mais nous, les Kaisenkos, il nous faut mourir. Ô terre, tu es éternel, mais nous, les Kaisenkos, il nous faut mourir. À mesure qu'il chantait, il enfouissait la tête sous sa couverture. Avec les dents, il se lacérait les mains pour les glisser hors des menottes. À une faible distance du fort, il parvint à les libérer. Il récupéra le couteau de chasse sous sa couverture et se redressa. Le vieillard pleurnichard redevenait un guerrier qui ouvoit plein de bravoure. Bondissant sur un des gardes, il lui arracha sa carabine. Les 2 soldats tombèrent à la renverse hors du chariot. Sitting Bear s'empressa de glisser une cartouche dans la chambre. Le vieil homme ne savait peut-être pas comment fonctionnait ce fusil. En tout cas, la carabine se refusait à tirer. Mais le fait était sans importance. Il poussa son cri de guerre et fit semblant de viser avec son arme inutile tandis que la balle des soldats l'atteignait. Paniqués, les cavaliers tiraient au hasard. Ils blessèrent gravement le cocher monté sur une des mules. Sitting Bear fut secoué à chaque impact et son corps s'écroula. Mais soudain, il se redressa dans le chariot oscillant et titubant, jeta de ses mains ensanglotées et rongées jusqu'à l'os son fusil inutilisable en direction des soldats dans un ultime geste de guerre à outrance. On ne prend pas le chef de la société des dix plus braves pour qu'il accepte d'être jugé par des étrangers dans ce qu'ils appellent une cour. Les soldats blancs l'abattirent d'une volée de balles, exactement comme ils le souhaitaient. Incontestablement, cette bataille avait été livrée à sens unique. 5 hommes de cavalerie contre un seul, âgé de 70 ans et portant des fers. Mais, aux yeux de l'Indien, il s'agissait d'un vrai combat. Sitting Bear avait grandi dans un monde qui connaissait peu de blancs, des négociants surtout, mais certainement pas des arbitres de la destinée d'autrui. Il avait mené une vie bien pleine et comblée d'honneur, et sans doute ne voulait-il pas être le témoin de la destruction d'un passé traditionnel, ni vivre sous ce nouveau régime. En mourant, il laissait un précieux souvenir aux hommes de son peuple, la mémoire d'un personnage d'une intégrité totale. Eh bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je vous parlerai de Red Cloud, le chef Sioux. Et bien voilà, je vais dire au revoir et merci à Nico qui toutouillait les boutons derrière la vitre en cette nouvelle année. Et à vous, je vais dire, on va dire comme d'habitude, hein, à la prochaine fois, même endroit, même heure.